تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et culturel, votre hebdo qui vous propose de partager des lectures mais aussi des films avec Catherine Rochette, des polars et de la science-fiction avec Bibio Manu et de la découverte sonore hybride avec Le Mot d'Amour. Ça, ce sont les nouveaux chroniqueurs de l'émission, ils viennent s'asseoir à mes côtés une fois par mois et à tour de rôle, ils vous rencontrent et c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Aujourd'hui par exemple, c'est avec Bibio Manu que vous aurez rendez-vous, alors amateur, amatrice de poils dressés, de chair de poule et de scénarios catastrophes, attachez vos ceintures et accrochez-vous. Mais avant de lui céder le micro, j'ai décidé, moi, de m'arrêter ce jour sur un album illustré. Et oui, messieurs, dames, parce que j'ai découvert, il y a peu finalement, que certains albums illustrés n'étaient pas à mettre entre toutes les mains. Enfin, entendez par là que je ne suis pas de celles qui disent « Ah ça, c'est pas pour les enfants, absolument pas !» mais juste de celles qui pensent que ces albums, lus à un certain âge, ou un âge certain, n'ont rien de dangereux, mais que toutes les subtilités ne pourraient pas être perçues par les plus jeunes. Et c'est le cas avec cet album dont je m'apprête à vous causer, qui s'intitule « Histoire imaginaire sans queue ni tête », qui est signé côté écriture par Yula Horst et côté illustration par Daria Rychkova. Le tout publié chez Actes Sud Junior en 2014. Pour vous situer l'ambiance d'entrée de jeu, moi, je vous enverrai bien ça derrière les oreilles, mes enfants. C'était les Meridian Brothers avec un extrait de leur chaud bouillant tout dernier album. Pourquoi j'ai donc choisi ce titre des Meridian Brothers pour vous restituer l'impression générale qui se dégage lorsqu'on ouvre Histoire imaginaire sans queue ni tête, cet album signé Yula Horst et Daria Rychkova pour les illustrations? Eh bien, pour le côté foufou, dézingué, tourbillon, vertigineusement bon, comme je vous le disais dans le sommaire de cette émission. Cet album paru chez Actes Sud Junior est un délice, tout autant pour les enfants, mais pas les plus jeunes, à qui le côté symbolique second degré échapperait totalement. Un peu grand, les enfants un peu grands, voire les adultes. Car oui, je déclare haut et fort, on peut être un adulte raffolant du travail des illustrateurs d'une part, et particulièrement sensible à ce que véhicule l'album, le texte et l'image. Ou parfois plus le texte que l'image, bref, et vice-versa. Allez farfouiller par exemple du côté du travail de Emmanuel Houdard, pour ne citer qu'elle, et vous comprendrez vite mon propos. Cette histoire imaginaire sans queue ni tête prend comme prétexte pour sa narration, tiens, et si nous avions tous une queue? Que seraient nos vies? Quelle serait notre histoire? Celle avec un grand H, celle avec un petit H? Quelles seraient nos difficultés? Quels avantages serions-nous en tirer? Bref, gros clin d'œil, cet album qui a en plus, ça ne gâche rien, reçu le prix du meilleur premier album de l'année 2014, celui qui est donné par la Foire internationale de Bologne. Ce qui est tout à fait légitime qu'on se le dise. Sur la couve, très réussie.
On trouve deux êtres, au corps d'enfant, mais au visage d'adulte, lookés, je dirais joliment vintage, un poil rétro, c'est le cas de le dire, un peu, tu vois, genre... Et derrière ces deux personnages de couverture, un loup. À moins que ce ne soit un renard. À moins que ce soit un loup avec une tête de renard. Mais il est noir. Et sa queue, à lui, dissimule finement, histoire de garder un peu de suspense, les deux appartenant aux deux humains. Leurs têtes sont dans un cercle bleu tout aussi vintage, avec étoiles qui vont bien et petits nuages noirs. Bref, la grande classe, un bel objet qu'on a envie d'ouvrir fissa.
I just don't know.
Ça, c'était pour évoquer avec vous l'ambiance côté look de la couverture de l'histoire imaginaire sans queue ni tête, cet album illustré pour tous les publics. M'entendez-vous ? Publié chez Actes Sud Junior, signé Mesdames Horst et Rychkova. Pour adresser ce message qui pourrait paraître totalement loufoque, et si nous avions tous une queue, que deviendrons-nous ? Les deux auteurs ont joué sur une alternance assez sidérante. Planche très colorée, puis planche crayonnée, pouvant faire parfois penser à des anciens manuels scolaires, pas de cases ni de mise en page uniforme, des petits détails donc à rechercher et à trouver partout et tout le temps, une police de caractère tout en rondeur rappelant les déliés d'enfants, avec des jeux de gras, pas gras, petit format, grand format, mais toujours et partout et tout le temps par contre, ses corps et ses habillements d'enfants surmontés de drôles de têtes d'adultes. Tiens, mais que nous disent donc les auteurs là ? Dans une histoire imaginaire sans queue ni tête. Que seraient donc les adultes qui créent sans cesse quelques difficultés, voire mécontentements, sur leurs propres conditions de vie, sur l'essence de ces conditions ? Bagatelle ! Nous traiteraient-elles, et elles avec, parce qu'elles n'ont vraiment pas l'air prétentieuses, ces auteurs-là, d'empêcheurs de tourner en rond, nous, les adultes ?
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pourtant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon t'entends tu. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de toi. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, patata pour tout cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la.
No Comment, celui-là de titre, parle très bien tout seul, de lui-même, pour illustrer ce magnifique album illustré que nous offrent Mesdames Horst et Rychkova et qui s'intitule « Histoire imaginaire sans queue ni tête ». Côté écriture et narration, nous flirterons avec l'absurde, le sourire aux lèvres, parfois l'échangeant pour un rictus, voire un franc éclat de rire d'autres fois. Elle joue sur tout, le fond et la forme. Par exemple, on peut lire en toute fin d'album, je cite « Les livres avec des personnages sans queue seraient rangés alors au rayon science-fiction ». Ce qui interroge le fond. Et nous, mais face à nos manies d'étiqueteurs de genre littéraire, sur ce coup, psychopathes et réducteurs, mais quand ailleurs on lit, il y aurait des queues particulièrement adaptées à certaines professions, alors comment ne pas glousser bêtement sur la forme, l'écho de cette question. Et elles envoient valser tous nos travers, nous mettant directement face au fait que nous sommes des éternels insatisfaits. Et le tout se fait en douceur et en grande intelligence. Et moi, je vous recommande carrément de vous procurer cet album d'une très belle facture et d'un intérêt majeur, dont l'esthétisme est juste un vrai régal. Bref, je vous le dis, il faut le lire. Et pour vous dire aussi comment je me sentais quand je l'ai refermé, cet ouvrage, eh bien voilà.
Someone's always coming around here, trailing some new cure. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game of chance to you in this one of real skill? So glad to meet you, Angela. Be Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. That you add up all the cards left to play to zero, sign up the evil. Start me trying now. Cause I'm all over it, Angelus. I can make you satisfied in everything you do. All your secret wishes could right now be coming true. Be forever with my broken arms around you. No one's gonna fool around with us. No one's gonna fool around with us. So glad to meet you.
Voilà, eh bien, il est grand temps pour moi de laisser la place au maître chair de poule, science-fiction et polar en tout genre, à savoir Bibiomanu.
Bonjour à tous, dans ce nouveau à la frontière des genres, pas question de présenter vos papiers ici, cette frontière est ouverte à tous, donc installez-vous et profitez. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un auteur ayant connu une success story éditoriale, amplement méritée. Rien d'étonnant à cela, puisque depuis Les Vestiges de l'Aube, paru en 2010 en passant par sa trilogie projet, réunissant le projet Bleiberg, le projet Chiro, le projet Morgenstern, un roman jeunesse intitulé Thunder et la suite des Vestiges de l'Aube, une nuit éternelle, tout frais tout chaud, sorti des presses des éditions du Fleuve, David Cara fait feu de tout bois avec une maestria incroyable, n'hésitant pas à jouer avec les codes du polar, du fantastique, du roman d'espionnage, voire même de la science-fiction. Le tout de manière si abordable et passionnante, en fer de lance d'une littérature populaire de qualité, que je ne pouvais décemment pas rater l'occasion de lui poser quelques questions. Bonjour David Cara, et merci de venir avec nous à la frontière des genres sur Rock'n'Page.
Bonjour.
Justement, vous avez l'habitude de la côtoyer dans vos récits, entre le thriller, le fantastique, l'espionnage, le roman pour adolescents, l'histoire, les perspectives scientifiques même. Quel est le terme qui vous convient le mieux, vous, pour qualifier vos textes ?
Le terme dont je me réclame le plus, c'est le roman d'aventure. Le roman d'aventure, c'est justement une liberté de mêler les différents genres et de les travailler un peu à ma sauce, sans m'enfermer dans une catégorie, parce que ça, c'est quelque chose de typiquement français, oui. Et ma culture étant très anglo-saxonne, c'est vraiment un genre dans lequel je me reconnais, et c'est aussi une culture française qu'on a un petit peu oubliée, un petit peu perdue, puisqu'on a beaucoup de nos grands classiques qui mêlaient les genres et qui utilisaient, par exemple, le fantastique comme allégorie de la nature humaine. Donc c'est pour moi, je reste dans quelque chose de très classique au niveau de la facture, et qui est devenu un peu marginal aujourd'hui, ou un petit peu oublié en tout cas.
Ouais. Comment est-ce que vous faites pour jongler ainsi avec les codes du genre ? Pour vous, c'est avant tout un jeu, un défi que vous vous lancez avant chaque livre, ou bien est-ce que vous n'avez pas du tout d'idée préconçue de ce vers quoi vous allez, et vous ne vous interdisez rien ?
Alors, c'est un habile mélange des deux. D'abord, je ne m'interdis absolument rien. À partir du moment où on raconte une histoire, j'estime qu'on a absolument tous les droits. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en règle générale, je sais très exactement où je vais et ce que je veux raconter. Alors, dans le cas par exemple des Vestiges de l'Aube, où effectivement je mêle, et c'est particulièrement vrai dans le deuxième, dans Une nuit éternelle, je mêle vraiment un côté polar qui représente un peu plus de la moitié du bouquin, avec un côté un peu fantastique qui représente la deuxième moitié, je savais dès le début à quoi me servait la partie polar et à quoi me servait la partie fantastique. C'est-à-dire qu'elles sont pas là par hasard, elles sont là pour raconter des choses sur l'humain, pour mettre en perspective des aspects de notre nature. Le flic incarnant un rapport au droit et un rapport à la société, et le regard du vampire avec ses 150 ans de recul, amenant aussi un regard sur notre société moderne par rapport à ce que lui a pu connaître au 19e, et puis en même temps jouer sur la la notion de justice immanente qui peut parfois être un peu dérangeante, et sur la bestialité de l'être humain, mais en revenant finalement au code de ce qu'était historiquement la nature du vampire. C'était à la fois une nature érotique et mortelle, c'était l'Eros et le Thanatos. Donc je suis dès le début parti pour utiliser ces deux codes comme des révélateurs de et des catalyseurs de notre nature vraiment profonde.
Alors justement, entre les vestiges de l'aube qui étaient parus une première fois chez Rivière Blanche en 2010, ouais. Vous avez attendu 5 ans avant de 4 ans, 4 bonnes grosses années avant de la publication au fleuve de Cette nuit éternelle. Est-ce que ça vous a pas démangé d'écrire plus tôt cette suite?
Ah si, si. Alors là, le terme est parfaitement choisi. En fait, le succès de Bleiberg a été tel et les besoins des traductions plus du cinéma ont fait que globalement on m'a demandé de ne pas trop traîner pour les suites. En même temps, j'étais très embarqué avec le personnage d'Ethan et à partir de Bleiberg, où le jeu était de révéler le véritable héros qui est la moitié du roman, j'avais vraiment envie d'aller plus loin dans son histoire, donc je me retrouvais dans une situation un peu compliquée où j'avais à la fois envie de retrouver Werner et Barry, les deux héros des Vestiges et d'une nuit, et en même temps l'envie d'aller plus loin avec Ethan. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant l'écriture du projet Morgenstern, dont j'avais le scénario parfaitement en tête, plus d'une fois je me suis arrêté pour écrire carrément des passages entiers de dialogue d'une nuit éternelle qu'on retrouve dans le roman. Donc ça, si, ça m'a démangé. J'étais très embêté parce qu'en plus il y a beaucoup de lecteurs qui depuis 4 ans m'écrivent en demandant et quand est-ce qu'on les retrouve et quand est-ce qu'on les retrouve. Mais bon, malheureusement, je pouvais pas me démultiplier. En même temps, j'étais assez content de pouvoir attendre parce que l'écriture est un travail, un véritable métier. Ça s'apprend. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte quand on écrit un roman. Certains sont empiriques, d'autres sont complètement maîtrisés et techniques.
Oui.
Et en fait, toute mon écriture au fur et à mesure, c'était aussi un apprentissage qui m'a permis d'aller nettement plus loin que les vestiges d'ennui éternel. Donc c'est pas un processus que je déplore, au contraire. Maintenant, j'étais un peu embêté pour les lecteurs, les faire attendre autant. Mais vu les retours, je pense que ça méritait l'attente.
Est-ce que le fait d'être passé d'une petite structure chez Rivière Blanche en passant par Critique et puis maintenant vous arrivez au fleuve, est-ce que ça a changé votre rapport à l'écriture?
Alors oui et non. Oui, au sens où le confort de travail est complètement différent. Parce que dans ces grosses structures, il y a toute une série de validations, de relectures, de corrections, enfin bon, il y a toute une logistique qui est très différente. Non, au sens où je continue à avoir les mêmes motivations dans l'écriture, je veux dire, il n'y a absolument rien qui a changé entre les Vestiges de l'Aube avec Rivière Blanche et Une nuit éternelle avec Fleuve, au sens où j'écris pour les lecteurs, je continue à écrire des histoires que j'aimerais lire, qui me touchent déjà moi, c'est-à-dire je suis toujours sur une écriture parfaitement honnête. Alors on adhère ou on n'adhère pas, mais les scènes qui sont censées faire rire me font rire, celles qui sont censées faire pleurer me font pleurer.
Ouais.
Ça n'a absolument rien changé. Ce qui est un peu particulier dans le fait d'arriver au fleuve, justement, c'est que venant de Rivière Blanche, qui est une collection hommage à Fleuve Noir, c'était un hommage global qui était rendu de ma part à Rivière Blanche et à leur travail, que d'arriver au fleuve. Et quelque part de les emmener avec moi, puisque la postface du roman a été écrite par Philippe Ward. Qui est l'homme qui m'a publié au premier, qui m'a fait travailler, qui continue à suivre ma carrière et qui m'a donné son accord pour passer vers d'autres structures et continuer à avancer. Sans son accord, je ne l'aurais pas fait, je serais simplement resté avec lui. Là, même si je ne publie plus chez Rivière Blanche en l'état, c'est toujours quelqu'un que j'emmène avec moi partout où je vais, parce qu'il a vraiment eu une importance qui est fondatrice, et humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et je n'oublie pas d'où je viens.
Vous lui faites lire à chaque fois vos ouvrages, au fur et à mesure?
Absolument. Absolument, on en parle, on fait pareil avec les siens, et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Enfin, je veux dire, la fidélité est pour moi une notion très importante.
Alors justement, par rapport aux notions que vous abordez, dans La nuit éternelle, que ce soit entre Werner et Barry, l'un vampire, l'autre humain, qui noue une histoire amicale très forte, presque amoureuse, hein, ou même dans le regard de Werner sur la coéquipière homosexuelle de son ami, dans ce livre, mais aussi dans les autres, de toute façon. Vous portez une attention toute particulière au thème de la différence. Est-ce que c'est une manière pour vous de répondre à l'intolérance massive dont les médias se font l'écho? Je pense au racisme, je pense aux manifestations contre le mariage pour tous, mais aussi des saillies méprisantes auxquelles on peut assister tous les jours.
Oui, c'est évident que c'est une façon d'y répondre. Je veux dire, il y a une, je m'oppose, mais alors totalement à cette... cette ambiance actuelle qui consiste à avoir un Éric Zemmour un peu partout avec des discours moyenâgeux, haineux et rétrogrades, que je considère dangereux. On est globalement dans une époque, agité pour le moins, avec des gens qui arrivent à manifester pour que leurs concitoyens n'aient pas les mêmes droits qu'eux. On a une montée générale de l'intolérance, et j'estime qu'aujourd'hui, écrire sur la différence, écrire sur l'acceptation de l'autre, c'est quelque chose d'important. Je ne me donne pas une dimension sociale gigantesque, hein. Je ne me crois pas investi d'une mission qui ne serait pas la mienne, mais dans la mesure où j'écris sur l'espoir et l'humanisme, et d'une manière générale ma motivation, il est bien évident qu'il n'y a rien de gratuit dans ce que j'écris, absolument rien. Et le choix d'avoir une policière homosexuelle avec le regard d'un homme du 19e sur une tolérance qui n'est pas forcément évidente, c'est très évidemment pour m'inscrire en faux par rapport à la manif pour tous. Je comprends que chacun ait ses opinions. Je pense que dans notre pays particulièrement, avec notre histoire et nos valeurs, il serait bon de rappeler de temps en temps que liberté, égalité, fraternité, ça doit avoir un sens. Voilà. Et qu'à partir du moment où on est lu, on a aussi parfois peut-être la responsabilité en tant qu'auteur de ramener tout le monde à la raison. Alors encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. J'ai reçu des messages un peu partis un peu bizarres, hein, après ce que j'ai pu écrire. Le fait d'avoir un agent du Mossad dans
la projet.
Des projets m'a valu des menaces moins que voilées. Certains auteurs se revendiquant d'extrême droite sont venus sur ma page Facebook pour déverser un peu leur haine sur moi et sur mes lecteurs, et c'est plus sur mes lecteurs que ça me dérange. Bon, alors qu'il suffit de lire la trilogie pour comprendre que c'est tout sauf une apologie de la guerre et que ça, c'est bien au contraire, ouais. Que c'est tout sauf une série contre les Palestiniens, évidemment. J'assume complètement le côté bisounours qui consiste à vouloir la paix pour le monde entier. Il y a un moment où cette société, et particulièrement les médias, qui portent une lourde responsabilité en se faisant l'écho exclusivement de ce qui est négatif, doivent se regarder, et où nous, écrivains, dans ce qu'on écrit, je pense qu'on a vocation à rappeler deux, trois règles du vivre ensemble.
Voilà. Eh bien,
je le revendique clairement.
David Cara, le message est entendu. On va essayer de faire en sorte de le partager amplement. Malheureusement, l'interview arrive à son terme. Juste une petite question. Est-ce que vous pourriez nous conseiller un livre à nos auditrices, à nos auditeurs, qui ne fait pas partie de votre bibliographie? C'est une petite tradition dans Rock and Page.
Un livre qui ne fait pas partie... Oui, alors il y en a un que je vais vous conseiller parce que pour deux, trois raisons. C'est, alors il n'a pas besoin de publicité, mais c'est pas grave, c'est Le règne des Illuminati d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne, qui propose une approche très intéressante du monde dans lequel on vit, et notamment de tout ce qui est internet, smartphone et compagnie, qui sont en plus deux amis de la Ligue de l'Imaginaire, et qui m'ont fait le plaisir dans ce roman d'utiliser le personnage d'Ethan Morgue, en l'extrayant des projets et en le mettant face à Antoine Marcas. Le livre est de toute façon remarquable et pose des questions et amène des informations qui sont absolument passionnantes sur ce que la technologie permet de faire aujourd'hui.
Voilà. Ah, très bien. Merci beaucoup David Cara. À très bientôt. On va suivre vos prochaines aventures de près, vos prochaines publications. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Merci beaucoup.
Voilà, c'était Bibliomanu avec À la frontière des genres, sa chronique pour Rock and Page. Merci à lui. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Retrouvez tous les anciens numéros de l'émission sur le blog qui lui est consacré au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Prenez bien soin de vous.